On est en train de continuer l'étude sur l'épître de Jacques. On a encore beaucoup de matériel à passer à travers. Puis on ne fera jamais ça dans une semaine ou dans un mois. J'en ai pour les 6 premiers mois, peut-être un an même passé à travers. Il y a tellement de bagages de connaissances de la parole de Dieu dans ces versets-là, c'est puissant. Comme ce soir, on n'avance pas parce qu'on utilise le même passage que la dernière fois, mais pour aller encore en profondeur, pour découvrir la pensée de Dieu sur les épreuves. On a vu le passage « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques, quand il a dit ce passage-là, il parlait à des gens qui étaient très dans l'épreuve. C'est pas juste qu'ils étaient dans une épreuve, ils étaient dans de très grandes épreuves. Quand j'ai dit ils ont perdu tout ce qu'il y avait, ils étaient dans la dispersion. Ils ont perdu leur bien, leur famille, leur job, le contexte dans lequel ils ont été élevés. Puis ils vivaient errants, éparpillés un peu partout. Les villes persécutaient les chrétiens, puis ils se sauvaient, puis ils allaient vivre dans les montagnes, des grottes. C'était ça leur mode de vie. C'était difficile. Puis Jacques a écrit une lettre aux chrétiens pour leur dire... Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. De supporter les épreuves, les attaques, les pièges du diable, des problèmes, des difficultés, des maladies, les choses difficiles qui arrivent. Parce qu'après avoir été éprouvé, puis c'est ça qu'on va regarder ce soir, ça dit... De supporter patiemment la tentation, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, mais après avoir été éprouvé. C'est ça qu'on va regarder ce soir. Vous allez entendre des affaires que vous avez peut-être jamais entendues à ce niveau-là. Pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps et qui sont habitués à entendre la pensée que le salut ne se perd pas, et etc., les gens sortent des versets dans ce sens-là. Mais on va voir que des versets qui sont écrits, que il faut qu'on s'aperçoive que ces versets-là sont écrits justement dans le but de réajuster notre pensée sur cette pensée-là. Le mot qui est là dans cette phrase-là, parce que ça dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé ». Le mot « épreuve », quand tu passes à une épreuve, qu'est-ce que ça veut dire dans le texte original? Parce que il faut aller lire le grec pour voir le dictionnaire grec, c'est un mot-là, épreuve qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Louis II, il a traduit ça par approuver ou éprouver. Fait qu'il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été approuvé ou éprouvé, dans le sens du mot, ça veut dire accepter, particulièrement pour les pièces de monnaie, le mot qu'il y a là. Accepter, plaisant, acceptable. Ça, c'est le vrai sens de ce mot-là. Fait qu'il est heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été trouvé acceptable, il recevra la couronne de vie. Fait que c'est comme si la tentation est une épreuve pour vérifier si on est acceptable. Si notre foi est acceptable par Dieu. Dans le monde ancien, il y avait pas le système bancaire qu'on a aujourd'hui, qu'on a actuellement. Il y avait pas de monnaie en papier. Les monnaies, c'était des pièces de... Ils faisaient fondre le métal, faisaient couler ça dans un moule, puis la moule, il y avait la forme du, mettons, du visage de César. Ils faisaient une pièce de monnaie. Ce qui arrivait, c'est que dans les pièces de monnaie, étaient refroidies, il était nécessaire de les lisser, parce que là, c'était rough dans ce temps-là, c'était tout fait à la main, il est sablé. Il passait sa meule, puis il les arrondissait, puis il les polissait. Puis là, c'était des côtés, t'as pas égal, là, c'était comme par coche des fois. Puis comme les pièces étaient relativement molles, c'était pas de l'acier aussi solide qu'on a aujourd'hui, il y a de nombreuses pièces qui se rognaient. Rogner, c'est d'en enlever des morceaux après. Comme si t'en casses un morceau, tu casses une autre pièce, puis là, elle rapetissait. les pièces de monnaie. Puis là, il y en a qui faisaient exprès même pour en enlever des morceaux, pour récupérer le métal. Fait que la pièce rapetissait, puis il y en a qui volaient des morceaux. Puis les pièces de monnaie, ça était grosse de même en commençant. Des fois, elle pourrait être rendue grosse de même parce que le monde y en cassait des morceaux pour récupérer le fer puis s'en servir pour faire d'autres choses. Puis là, en un siècle, plus de 80 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces de monnaie en circulation. Là, ils passaient des lois puis des interdictions. Ils n'avaient pas le droit d'enlever des morceaux de métal après les pièces. Puis le monde était voleur, puis ils voulaient se faire de l'argent avec l'argent. Puis il existait quelques changeurs intègres, des gens qui échangeaient l'argent, qui n'acceptaient aucun contrefait. L'argent était vérifié, ça, ouais, c'était une vraie pièce. Puis s'il en manquait des bouts, ils l'acceptaient pas dans l'échange d'argent. Puis il remettait pas en circulation que les pièces qui avaient le bon poids. Fallait que la pièce pèse une certaine pesanteur pour qu'elle ait cette valeur-là. De tel homme était appelé des dokimos ou des approuvés. Le gars qui vérifiait les pièces puis qui est intègre, lui, c'est un approuvé. Il était reconnu, approuvé par le gouvernement en place pour, parce que c'est un homme juste, si la pièce devait peser un talent, fallait qu'elle pèse un talent. S'il manquait des bouts après, il refusait la pièce, puis il la mettait pas en circulation, ou il l'échangeait pas contre d'autres sortes d'argent. Le point qu'on veut en venir, c'est que ce gars-là, que lui surveillait pour si les pièces étaient authentiques, s'il y avait vraiment leur pesant d'or, ou d'argent, ou de fer, ou de bronze, ou de cuivre, parce qu'il y avait des pièces de toutes sortes de métaux, fallait que ça pèse le poids. Puis le gars que lui vérifiait, il était appelé un approuvé. C'est un gars qui était intègre. Ils ont vérifié son travail, puis il n'en passait pas de crocherie. Voyez-vous le point? Ça nous fait comprendre le verset, parce que c'est ce que le Seigneur veut qu'on soit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, ou approuver. Dieu nous regarde quand on passe nos tentations puis nos épreuves, puis il regarde si vraiment on est des vrais ou si on laisse passer des pièces qui n'ont pas la bonne pesanteur. On est-tu appelé des approuvés ou si on est appelé des croches? Des hommes à deux balances, là, qui vendent, ils disent, oh, t'en as pour un talent, mais en réalité, il n'y a pas un talent dedans. Il y a 75% du poids, puis il trompe les autres. C'est un voleur. Puis ceux qui sont croches comme ça, passent pas le test. Dieu, pensez-vous qu'on peut y passer une vite? Entre nous autres, on pourrait se jouer. Mais on veut pas le faire parce qu'on veut être honnête. Mais dans notre foi, la vraie foi qui sauve, la foi démontrée par les œuvres. Est-ce que notre témoignage est valable qu'après avoir été, on supporte patiemment les tentations qui nous arrivent, parce qu'après avoir été décidé par Dieu, t'es un approuvé, t'es un droit, t'es un juste, t'es un fidèle, t'es un approuvé. Mais il dit, c'est les approuvés qui vont recevoir la couronne de vie. Il arrive pour plusieurs raisons que certaines personnes ne passent pas le test de la foi et sont rejetées par Dieu. Puis même après avoir été dans la porte, ils passent dans la porte, qui est Jésus, mais quand c'est question de marcher dans le chemin, ils l'ont pas pantoute. Ils sont tout croches. Ils marchent pas dans la vérité, ils marchent pas dans les commandements, ils marchent pas dans la parole du Seigneur. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Un autre place, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y en a plein de passages comme ça, comme quoi que si t'es un disciple, prouve-les. Marche. Obéis. Sois fidèle. Tu peux arriver que tu tombes, mais tu te relèves. Mais t'es pas un hypocrite ou un menteur sur toute la ligne. Des faux, il y en a aussi. Dans un passage, justement, pour nous faire voir cela, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets de 1 à 9, Il y a 9 versets dans ce passage-là, mais on en court un peu de temps. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Ça a de l'air des chrétiens. Ils ont l'apparence de gens pieux, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est d'être dans la foi puis dans la vérité. Quand tu es en communion avec le Seigneur, tu marches pas tout croche. Si tu as tombé, mais tu demandes pardon, puis tu es humilié, puis tu le regrettes, puis tu te relèves. Mais tu pratiques pas volontairement le péché, comme si rien n'était, comme toute la description qu'on vient de voir, là. On n'a pas le temps de voir qu'est-ce que veut dire chacun de ces termes-là. Mais vous voyez bien que les gens, ils marchent tout croche dans les derniers temps. Ça nous dit que c'est les gens des derniers temps. Et quand que ça va arriver, c'est qu'on est dans les derniers temps? On l'est dedans. On peut pas être plus dans les derniers temps que là. On est quasiment dans les derniers temps, là. Puis, tu vas partout, là, les gens sont rendus comme ça. Puis le pire, c'est qu'il y en a dans les églises qui sont comme ça, qui ont une apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force, puis qu'ils aiment plus le plaisir que Dieu, puis qu'ils vivent tout croche dans leur péché. Puis ça nous dit, on continue de lire le verset, « Éloigne-toi de ces hommes-là. »
Oui, hein?
Ça parle à des chrétiens, là. Puis quand tu t'aperçois qu'un gars, sa vie est pas intègre, est pas approuvée, parce qu'il passe des vitres, puis il vole le monde, puis il est croche, puis il est menteur, puis il est hypocrite, puis il est voleur, puis il a tous les défauts que tu peux imaginer. Ça nous dit de même pas de lui parler, cette personne-là. Ouais. Un autre passage, ça dit ça. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, sont chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Ils apprennent toujours, mais sans pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'ils peuvent être dans l'Église, ils apprennent, ils parlent du Seigneur, mais ils vivent jamais vraiment dans la vérité. C'est toujours des affaires tout croche. Puis là, il nous donne un exemple de deux personnes de l'Ancien Testament. Il dit, de même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ça, c'est le point que je veux en venir ce soir. On parle du mot approuvé. Parce qu'il dit, heureux les hommes qui ont été approuvés, ils vont recevoir la couronne de vie. Mais il y en a d'autres comme ces deux-là, ils sont réprouvés. C'est que rejeter, autant que Dieu peut dire, lui il a la vraie foi qui sauve, t'es approuvé. L'autre, il va dire, lui c'est un réprouvé. Il marche tout croche, il n'a pas la crainte de Dieu, il vit dans le péché, etc., puis il se repent pas. Dieu le rejette. Le mot réprouvé, que Dieu a déclaré que cette personne-là t'a réprouvé, c'est écrit dans ce passage-là que je viens de vous lire, mais le mot grec que là, c'est rejeté, c'est le mot que ça veut dire, réprouvé ou rejeté, c'est refusé à l'épreuve, non approuvé, non mis à l'essai, qui a pas fait ses preuves. Il est utilisé pour la monnaie, pour du poids. C'est une pièce, elle est fausse, il la rejette. Elle est pas bonne, la pièce, il en manque trop après, il la rejette. Mais il la réprouve. Il la jette dans le baril pour la refaire fondre. Elle peut plus servir pour faire cela. Mais Dieu fait la même chose avec des personnes qui marchent tout croche. Les pièces crochent, oui.
Non, mais le monde croche.
Le monde croche, il retourne dans le monde comme qu'il était avant.
Ouais, c'est ça, il y a pas d'autre
chance, oui, il y a d'autres chances, parce que tant que tu es vivant, tu peux te repentir. Tant que tu n'as pas atteint la voie de non-retour, tu peux demander pardon, Seigneur. Dieu vous... En attendant, c'est qu'il en rejette de ceux qui font semblant, puis il va dire, va faire tes devoirs, autrement dit, retrouve, regarde où ce que tu es tombé, puis reviens, reprends-toi. Une fois mort, c'est final. Une fois, si une personne est morte, séparée de Dieu, si elle est morte, séparée de Dieu, il n'y a plus de possibilité de la ramener. C'est, si elle est vivante, puis elle a été rejetée de Dieu, fait que Dieu, il s'est retiré de lui, il agit plus sur lui, il laisse aller. C'est comme si on voit dans la Bible qu'il y a ceux qui sont mis en fraternité, ou comme Paul il a dit que la personne était livrée à Satan pour la destruction de sa chair. C'est dans le but que la personne réalise son état, puis qu'elle se repente, puis qu'elle revienne. Mais pendant le moment qu'elle est rejetée, elle n'est pas sauvée. Elle passe pas le test. Elle est rejetée. Elle n'a pas la foi qui sauve. Elle peut être dans l'église, cette personne-là, faire des prières, mais elle n'est pas sincère. Elle joue deux vies. Elle joue une vie de chrétien dans l'église, puis quand elle retourne dehors, elle joue comme la vie dans le monde. On peut tromper les chrétiens, oui, on peut tromper les frères et sœurs, mais on ne trompe pas Dieu. Puis c'est Dieu qui approuve ou qui réprouve. Puis il y a des gens qui ont été réprouvés. Ils n'ont pas été approuvés dans leur test. Là, ça nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation, c'est le test pour mettre à l'épreuve. Mais il vit pas comme que le Seigneur le veut. Il démontre pas qu'il a la foi qui sauve. Il marche comme un humain marche, au lieu de marcher comme dans le monde. Peut-être qu'il a marché dans le Seigneur un bout, mais il s'est rebellé. Comme qu'on voit la semence qui est tombée sur le long du chemin, il n'y a pas de racine, le soleil vient, puis il vient des tribulations, des persécutions, il trouve une occasion de chute. Il y en a d'autres que les épines puis les ronces poussent, puis ça l'étouffe le gars, puis il n'y a aucun fruit dans sa vie. Mais il y a des gens aussi, comme qu'on va voir un passage tantôt, on va le lire tantôt, là on va rester encore dans ce but-là, celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait être. Il l'a pas prouvé qu'il est un chrétien par sa manière de vivre. En réalité, c'est faux. C'est des gens faux, c'est des gens réprouvés, c'est des gens disqualifiés. Même s'il a marché un bout avec le Seigneur, s'il est retourné comme qu'il était avant, puis qu'il dit, ils apprennent toujours, mais ils apprennent jamais à connaître la vérité. Ils viennent pas à la vérité, à être vrai, à être en réellement communion avec le Seigneur, puis marcher par la foi, puis marcher dans sainteté. Fait qu'ils vivent dans le péché, puis ils causent du trouble, puis ils font du trouble aussi dans l'Église. C'est ce que ça nous disait tantôt, puis ces deux personnes-là.
Ça n'a pas tombé dans leur profondeur.
Il y en a que ça n'a pas été profond, comme la racine n'a pas entré dans la parole de Dieu pour bâtir leur vie selon la parole. Il y a plusieurs manières que ça peut arriver. Mais l'idée de comprendre, c'est que nos épreuves qu'on vit, c'est des tests. Puis c'est là que Dieu, après ça, il regarde si on est approuvé ou réprouvé. Je dis pas qu'à tous les fois qu'on fait une gaffe, qu'il va nous rejeter. Non. Ça arrive aux chrétiens de n'importe quel chrétien ont tombé, mais ils se sont relevés, puis ils se sont repentis, puis Dieu renouvelle. Mais l'important, c'est d'être vrai quand c'est le temps de se repentir. Si on prie pas, puis on fait semblant d'être pieux, là, puis on a une apparence de piété, mais on en renie ce qui en fait la puissance, on marche pas dans la vérité. Puis la Bible nous demande de s'examiner nous-mêmes pour vérifier si nous sommes vrais. Dieu nous voit 100%, nous connaît à 100%. Moi, je peux faire semblant d'être chrétien à vos yeux. Je peux faire semblant puis jouer un bon rôle, mais en dedans, je ne suis pas vrai. Ça peut arriver. Qui est-ce qui est le deuxième mieux placé à part de Dieu pour savoir si je suis vrai ou si je suis pas un vrai? C'est moi-même. Si je m'examine. Ça nous le dit dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Tu te mets à l'épreuve, là, tu checkes, là. Je suis vraiment un gars sérieux? Je suis honnête? Je suis vrai? Je marche-tu dans la vérité? Je marche-tu dans la foi? J'ai-tu réellement la foi en que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés? Est-ce que je vis comme une personne qui a la foi ou je vis comme un païen dans le monde?
Mais quand on fait ça, on se repent.
C'est quand on le réalise, on se...
On n'est pas parfait, puis quand on fait ça, mais là, on...
Ça fait du bien. On se repent, puis on se renouvelle dans la présence de Dieu, puis on est en cours des vrais. Mais le faux, lui, il ne fait pas. Celui qui est hypocrite, qui est menteur, qui est type pour profiter, mettons, tu sais, il y en a tout le temps. Moi, je nomme pas de nom, puis je veux pas qu'on regarde les autres. On fait juste examiner soi-même. L'exercice, c'est ça. Ça dit, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? On devrait le savoir. Jésus, es-tu vraiment en moi? J'ai-tu vraiment reçu le Saint-Esprit? Y es-tu là? Si je me mets à l'épreuve, là, puis je fais un test, là, oui, Dieu est en moi, là, fiu. Là, je me sens correct. Parce que j'ai des preuves. Mais si on l'a pas de preuves, ben, il faut s'examiner. Puis si on s'aperçoit qu'on a pris des chemins qui n'étaient pas le chemin de Dieu, puis qu'on est un peu loin de Dieu, mais il faut se repentir parce que Dieu, il veut pas nous rejeter, il veut nous sauver. Il veut qu'on fasse partie de la gang. Il dit, examinez-vous pour voir si vous l'êtes ou vous avez peut-être été rejeté. Mais même si tu es rejeté et tu réalises que tu étais rejeté, tu peux revenir. Parce que c'est la même chose que l'enfant prodigue. Il était le fils de son père. L'enfant, il a dit... Père, donne-moi toute la part de mon héritage qui me revient. Le père, il a tout donné sa part. Le jeune est parti à go. Il a tout dépensé son argent avec des prostituées, puis il est allé vivre dans un autre pays tout seul, puis il a fait la fête jusqu'à temps qu'il ait tout dépensé, jusqu'à temps qu'il se retrouve dans plus rien à manger, puis il se retrouve en train de paître des cochons, puis pour les Juifs, des cochons, c'est des animaux impurs. Il est rendu à vouloir même manger le manger des cochons. Puis il s'est rappelé dans sa misère, il s'est examiné, il a bien vu qu'il avait fait une erreur, puis il s'est examiné, puis il a dit, « Ouais, quand j'étais avec mon père, là, tous les serviteurs qui étaient là, ils pouvaient manger à leur faim. » Puis là, je cite, puis j'ai de l'air d'un tweet dans un sens d'avoir abandonné mon père et tout gaspiller mon argent. Là, il dit, « Je vais retourner voir mon père, puis je vais me repentir. » Puis je vais dire à mon père, « Père, je suis même pas digne de t'appeler ton enfant, traite-moi comme un de tes serviteurs. » Mais quand le père l'a vu revenir, il était heureux de revoir son fils revenir. Il a fait une fête, puis il l'a repris. Fait que Dieu il accueille ceux qui sont rebelles, qui se sont rebellés et éloignés. Puis mais s'ils sont repentants, Dieu, il veut les recueillir de la même façon. Il a dit, « Mon fils était mort. » Mais là, il est revenu à la vie. Fait que ceux qui sont éloignés du Seigneur, peu importe la raison, sont morts spirituellement. Même s'ils étaient vivants avant, mais s'ils sont éloignés du Seigneur puis ils vivent pas une communion avec le Seigneur, sont séparés du Seigneur à cause de leur vie, mais ils sont morts. Puis ils ont besoin de revenir en communion. Y a-t-il quelqu'un qui a levé sa main? Oui, c'est vraiment mort.
Dieu est puissant pour nous
hanter
de nouveau.
Oui, fait que même si on se repent, il va nous hanter.
Mais comment ça se fait que des fois on demande pardon puis on est sincère, mais on sent encore coupable?
Mais il y a deux sortes de culpabilité. Il y a celle que le Saint-Esprit peut faire pour nous montrer que c'est pas correct, puis il y a les attaques du diable pour nous faire douter du pardon de Dieu. Fait que c'est pas toujours Dieu qui fait ça. Là. Dieu, quand tu demandes pardon, il te pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais si on sent encore des culpabilités, c'est des mensonges du diable pour te faire la croire, pour te faire douter du pardon de Dieu. Là, faut que tu rejettes ça dans le nom de Jésus. Si tu as demandé pardon pour un péché, tu demandes pardon sincèrement, t'es pardonné. Dieu le dit, t'es pardonné. Fait que si tu sens d'autres culpabilités, c'est pas Dieu, c'est le diable pour te faire douter du pardon. Pour que tu te dis, « Ah, oh, ben là, je suis jamais pardonné, je lâche tout. » C'est ça qui veut t'emmener. En réalité, faut que tu crois, Dieu a dit, « Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, peu importe le péché. » Amen. Ah, je vais continuer. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il lui dit, examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Reconnaissez-vous que Jésus est en vous, à moins que vous avez tout été disqualifié, tout est rejeté. Pourquoi que Paul lui dit ça? Parce qu'il voyait que dans cette église-là, il y avait des troubles pas normales. Puis il voulait leur faire prendre conscience de leur état. Puis il leur dit, c'est peut-être même possible que vous avez été rejetés par Dieu. Mais là, si les gens le réalisent là, en entendant cela, puis ils se disent, oui, c'est vrai, je suis plus en contact avec Dieu depuis X temps, j'ai fait des affaires qui n'étaient pas correctes, je ne sens plus le contact, je sens plus que l'Esprit de Dieu est là, mais tu t'éprouves toi-même, puis il faut le faire régulièrement, de s'éprouver pour voir si on est encore rempli de l'Esprit ou si on est rendu sec, comme un arbre déraciné, puis il n'y a plus d'eau. Mais là, si on est de même, il faut demander pardon au Seigneur, chercher à être renouvelé, parce que Dieu nous aime, puis il veut qu'on soit renouvelé. Il veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il vive. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Fait que si on est rendu dans les ceux qui sont rejetés par Dieu, mais il faut se renouveler dans la présence de Dieu. Il faut demander pardon, puis il faut revenir au Seigneur, puis il va nous restaurer. Il va nous relever, puis il va nous fortifier. Amen. Il y a dans la Bible des exemples de paroles qui ont été des personnes qui ont été réprouvées, qui ont été rejetées. On voit ça un exemple dans Matthieu 22, 11 à 14. Je vais vous le dire bien vite. C'est la parabole du roi qui avait invité tout le monde à ses noces. Puis, pendant que tout le monde était à ses noces, il a aperçu qu'il y en a un qui n'avait pas d'habit de noces. Toutes les autres avaient un habit de noces, sauf lui, il n'avait pas. Puis là, il a dit, comment ça se fait que tu es rentré ici sans habit de noces? Puis on le sait que l'habit, le revêtement du chrétien, c'est ses œuvres. C'est une personne qui ne marchait pas en contact avec le Seigneur puis qui portait pour porter du fruit. Il n'avait pas d'œuvre dans sa vie. C'est ça le vêtement qui va nous recouvrir. C'est les œuvres justes des saints. Fait que cette personne-là était parmi les autres, mais elle n'avait pas produit les œuvres de la foi. Qu'est-ce qui est arrivé? On voit que le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les gens sont appelés à venir, mais pour que tu sois un élu, il faut que tu sois un vrai. Puis il faut que tu persévères dans ta foi jusqu'à la fin. Une autre personne, un autre passage qui nous parle de cela, c'est que les gens ont reçu, mais lors du test, ils abandonnent le chemin de la foi. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20. Ça nous dit, en effet, après s'être retiré des souilleux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. C'est pire quand tu as cru en Jésus, tu es sorti de ta vie de péché, tu marches avec le Seigneur, tu es en contact, tu vis des belles affaires, puis à un moment donné, parce que tu te relaisses tenter, puis tu te relaisses aller, puis tu te retournes dans le monde, mais là, tu es rendu pire qu'avant. Puis même ça dit, il valait mieux pour eux de ne pas l'avoir connu que de se détourner après l'avoir connu. Mais ces gens-là, ils ne passent plus le test. C'est des gens qui sont rejetés. Ça dit qu'il est arrivé, comme dit un proverbe vrai, le chien retournait ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée et s'est revautrée dans le bourbier. Mais les gens peuvent être encore assis dans l'église, puis ils font comme si c'était une religion, mais ils n'ont pas de sincérité. Ils se repentent jamais de leur péché. Ils ne cherchent pas à marcher dans sainteté comme Dieu leur demande. Ils ne cherchent pas à combattre ou à résister aux tentations. Dieu les voit aller. Ils sont devant TV, puis ils recherchent la pornographie. Ils sont dans la rue, puis ils cherchent rien qu'à regarder les femmes, puis à les déshabiller dans leurs pensées. Ils font des crocheries. Ils vivent tout croche tout le long de la ligne. Puis après ça, ils sont assis dans l'église, puis alléluia, alléluia. On peut peut-être nous en passer des vite, mais Dieu voit tout. Puis le test, est-ce qu'on passe le test? Ou on est-tu des approuvés ou des réprouvés? c'est Dieu qui le sait, puis nous, on le sait. Mais si on sent qu'on est loin, faut arrêter. Faut s'arrêter tout de suite, puis de retrouver le contact avec le Seigneur, tout de suite. Parce que ça nous dit dans le passage, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, ses épreuves. » Il va les supporter, parce qu'après avoir été approuvé par Dieu, il recevra. Fait qu'on a encore du chemin à faire, puis il faut passer le test, frères et sœurs. Soyons des vrais. Demandons pardon au Seigneur si on ne sent pas qu'on est désapprouvé. Puis soyons renouvelés dans la présence de Dieu. Puis Dieu va le faire parce que on a une petite nouvelle, Dieu nous aime, puis il veut pas qu'on reste dans cette situation-là. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous fait prendre conscience qu'il y en a qui sont approuvés, puis il y en a d'autres qui sont rejetés. Seigneur, on ne veut pas faire partie de ceux qui sont rejetés. On veut rester fidèles dans ta parole, à mettre en pratique ce que tu nous demandes, puis à passer les tests d'épreuve en combattant, en résistant, puis en ayant des victoires dans nos vies. Mais par nous-mêmes, on n'est pas capable. On te demande pardon toutes les fois qu'on se laisse aller. Je te demande de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous revêtir de ta puissance, puis de nous donner de marcher dans la vérité. Qu'on puisse être des vrais, comme tu t'attends de chacun de nous, puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.